Et le journal vous est présenté par Ezequiel Fernandez. Bonjour Ezequiel.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Le port du masque obligatoire, y compris dans les lieux ouverts, la mesure s'étend en France, mais se pose la question maintenant du coût que cela représente pour les familles les plus modestes.
Les Philippines reviennent au confinement dur à cause de la nouvelle offensive de la Covid. État des lieux signé Benjamin Recouvreur.
Le viaduc San Giorgio, inauguré hier à Gênes, symbole d'une Italie qui se veut de nouveau conquérante, mais l'ombre des 43 morts de la catastrophe de 2018 planait hier sur la cérémonie.
L'antisémitisme de Dieudonné perd l'une de ses caisses de résonance. Le groupe américain Facebook l'expulse de ses réseaux sociaux, analyse en fin de journal d'un spécialiste en cyberstratégie.
Dans le contexte d'une progression de la Covid-19 dans le monde, la France a vu ces derniers jours le nombre de patients hospitalisés en réanimation repartir à la hausse, ce qui n'était plus le cas depuis avril dernier. On déplore par ailleurs 29 nouveaux décès dans notre pays pour un total de 30 294. De plus en plus de villes ou d'agglomérations en France ont décidé ces derniers jours d'étendre l'obligation de porter le masque dans des lieux publics ouverts, ce qui pose une nouvelle fois la question du coût des masques pour le budget des foyers les plus modestes. La sécurité sociale ne les rembourse que dans des cas très limité, lié à des pathologies particulières. Certes, l'État a déjà pris un certain nombre de mesures pour distribuer des masques aux populations démunies, mais ce n'est pas suffisant, selon Florent Guéguin. Il est le directeur général de la Fédération des associations de solidarité.
Pour l'instant, le gouvernement a pris quelques initiatives intéressantes, hein, puisqu'il va y avoir une distribution de masques par la poste aux bénéficiaires de la CMUC, la complémentaire santé, et aussi aux bénéficiaires de l'aide médicale d'État, pour ceux qui ont un domicile. Donc ça va représenter environ 40 millions de masques pour couvrir 7 millions de personnes. Mais pour nous, ça suffira pas, parce que ces distributions, finalement, elles vont toucher une partie de la population en situation de pauvreté, mais pas toute la population en situation de pauvreté. Il faut savoir que le coût du masque, c'est environ entre 100 et 200 euros par mois pour une famille de 4 personnes, donc c'est beaucoup. Et ça veut dire qu'il faut que l'État couvre la gratuité, d'abord pour les plus pauvres, mais aussi pour une partie des classes moyennes. Donc il faut augmenter les distributions de masques. Et puis à moyen terme, nous pensons qu'il faut que le masque soit remboursé par la Sécurité sociale. Il faut un système de remboursement clair qui fasse en sorte que finalement le coût financier ne soit pas un blocage pour la consommation et l'utilisation de masques en France.
Des propos recueillis par Catherine Pétillon. Prenons maintenant l'exemple d'un pays forcé de revenir à une stricte politique de confinement en raison de l'augmentation du nombre de cas constatés. Ce sont les Philippines, où 27 millions de personnes, soit un quart des habitants de l'archipel, doivent à partir d'aujourd'hui rester chez eux, notamment dans le secteur de la capitale, Manille. Décision prise après le cri d'alarme lancé samedi par 80 associations de médecins. « Nous sommes en train de perdre la bataille », écrivait-il dans une lettre ouverte. Résultat, les hôpitaux sont à nouveau, en effet, débordés dans ce pays qui avait connu l'un des confinements les plus longs et les plus stricts au monde. Benjamin Recouvreur.
Les mesures restrictives s'étaient relativement relâchées depuis début juin, mais aujourd'hui, la région de Manille se fige à nouveau. Plus de transports, des restaurants fermés, des déplacements limités au minimum. Christophe Lejeune est chef d'entreprise, représentant des Français de l'étranger aux Philippines.
Nous sommes en confinement depuis 4 mois et demi maintenant. Plus maintenant l'armée dans la rue avec des checkpoints qui demandent aux gens pourquoi ils sont hors de chez eux, où est-ce qu'ils vont, etc. Il faut avoir des autorisations. C'est fatigant. Normalement, l'été, on essaye de rentrer en France pour aller voir nos familles. Ben là, c'est pas possible. C'est vraiment pas facile.
En deux mois, le nombre de contaminations a été multiplié par 5 dans le pays. Sur la seule journée de dimanche, plus de 5000 nouveaux cas ont été détectés. Un record. La majorité des foyers se trouvent dans des bidonvilles à Manille. Hélène Tordesillas est journaliste au sein du groupe Vera Files.
Il y a des endroits aux Philippines où des familles de 10 personnes vivent dans de très petits espaces. La distanciation sociale est impossible. Le suivi des cas contacts est la grande faiblesse de la stratégie du gouvernement. J'espère qu'ils feront quelque chose pour ça. Nous sommes dans une très mauvaise situation.
Une situation qui oblige aujourd'hui les hôpitaux du pays à refuser des patients. Les mesures annoncées doivent, pour l'instant, rester en vigueur jusqu'au 18 août.
Et précisons que plus de 5000 professionnels de la santé philippins ont contracté le virus. Deux agents de la DGSE, la Sécurité extérieure française, mis en examen et écroués pour tentative de meurtre. L'information donnée hier par le Parisien a été confirmée par le parquet de Paris. Les deux militaires âgés de 25 et 28 ans ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient visiblement à commettre un meurtre et cela n'avait strictement rien à voir avec une mission des services secrets. Un troisième homme, complice présumé, a lui aussi été mis en examen et écroué.
France Culture 7h05, Ezequiel Fernandez. La tension monte d'un cran entre Israël et la Syrie. Hier soir, l'État hébreu a revendiqué des frappes menées dans le sud de la Syrie.
Mais cela en représailles à des tentatives de placer des bombes artisanales le long de sa frontière, expliqué Tzal. La défense antiaérienne de l'armée syrienne est entrée en action pour sa part contre ces raids israéliens. Un jour important que ce mardi pour l'Argentine et qui rappelle de bien mauvais souvenirs d'ailleurs. Ses créanciers doivent dire aujourd'hui s'ils acceptent ou non la dernière proposition du gouvernement du président Alberto Fernández pour la restructuration de 66 milliards de dollars de dette. L'Argentine est en défaut de paiement depuis le 22 mai. Sa dette totale s'élève à quelque 324 milliards de dollars, c'est-à-dire 90% de son produit intérieur brut. L'inauguration du nouveau pont de Gênes, dans le nord de l'Italie, transformé hier après-midi en événement national. Le viaduc San Giorgio, construit dans un délai très rapide, moins de 2 ans après la catastrophe qui avait fait 43 morts, l'effondrement du précédent ouvrage, tout le monde s'en souvient. Il faut dire, Bruce de Galzin, que l'Italie a bien besoin en ce moment de ce genre de réalisation et de symboles pour redorer son blason.
Sobre mais conquérant, le président du Conseil, Giuseppe Conte, veut faire de Gênes un exemple pour l'avenir. Il a salué le travail en commun des entreprises, des autorités locales et de l'État. Un nouveau départ.
Aujourd'hui, Gênes repart, comme elle l'a fait tant de fois dans sa glorieuse histoire. Confiante avant tout dans la force du travail, Gênes est la démonstration que notre pays, contrairement à tant de stéréotypes, sait se relever, sait dépasser les difficultés et revenir dans la course.
Plus poétique, Renzo Piano, l'architecte du nouveau pont, a lui parié sur la confiance des Génois.
Je crois que ce pont sera aimé, qu'il sera adopté par les gens, qu'il fera vite partie de leur vie quotidienne. Et vous savez, je crois qu'il sera aimé parce que ce pont est simple et fort, comme cette ville.
Pour être fort, le pont devra être entretenu. Et là aussi, c'est l'État qui va reprendre la main sur la concession autoroutière en évinçant la famille Benetton, actionnaire majoritaire de la société gestionnaire, soupçonné d'avoir manqué à ses obligations d'entretien et de surveillance.
Et ajoutons que ce soir, les piétons pourront emprunter le nouveau viaduc San Giorgio. Les voitures circuleront à partir de demain matin. Juan Carlos, l'ancien roi d'Espagne, a quitté son pays vers une destination inconnue. Il a choisi l'exil, alors que la justice espagnole a ouvert une enquête pour corruption, une énorme commission versée par l'Arabie Saoudite lors de l'attribution de la construction d'un TGV entre la Mecque et Médine, un consortium d'entreprises espagnoles. Âgé de 82 ans, Juan Carlos a expliqué à son fils Felipe VI qu'il était guidé par la conviction de rendre le meilleur service aux Espagnols et à leurs institutions. Fin de citation. Dieudonné perd peu à peu de son pouvoir de nuisance médiatique. Cette fois-ci, c'est le groupe Facebook qui possède aussi Instagram qui a décidé de le bannir de ses plateformes. Le mois dernier, Google supprimait déjà sa chaîne sur YouTube. Facebook explique sa décision. Dieudonné a violé de manière répétée les règles en matière de discours de haine en publiant des contenus se moquant des victimes de la Shoah ou en employant des termes déshumanisants à l'encontre des Juifs. Fin de citation. Cela marque aussi, de la part du géant américain, un changement vers plus de contrôle des contenus diffusés par ses réseaux sociaux. On écoute à ce propos François-Bernard Huyghe. Il est directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de cyberstratégie.
Facebook, en général, a subi beaucoup de pression, des déclarations de Trump, des pressions de ses employés, des annonceurs publicitaires, des médias, etc. et se dirige vers une politique de retrait des contenus au double motif de fake news, faux compte ou discours de haine portant un préjudice à des individus ou à des catégories d'individus. Tout ça a beaucoup joué au moment des Black Lives Matter et au moment du coronavirus. Alors là encore, je crois qu'il faut bien faire une distinction entre faux contenu et contenu de haine. Dans le cas du coronavirus, on a vu Facebook censurer énormément de contenus sur la chloroquine et qui ont pris de Bolsonaro ou de Maduro, par exemple, hein, au motif que donnaient de fausses informations médicales, c'était mettre en danger des vies humaines avec de fausses informations. Là, on est sur un autre raisonnement qui est que les contenus, ce sont des contenus haineux qui portent un préjudice moral. Ajoutons le fait que Mark Zuckerberg lui-même a dit à plusieurs reprises qu'il avait perdu plusieurs membres de sa famille dans l'Holocauste, donc je pense que ce n'est pas un sympathisant de Dieudonné.
François Bernard Huyghe répondait aux questions de Maxime Tellier. La page Facebook de Dieudonné comptait 1 200 000 abonnés. Le ciel, encore chargé dans l'Est, il va s'éclaircir en cours de journée. Le soleil sera plus généreux cet après-midi un petit peu partout en France. Ces températures toujours agréables, des maximales entre 22 et 27 sur une plus grande partie du pays. 19 à 22 au nord-ouest, 26 à 33 dans le sud-est. On va pouvoir à nouveau respirer, Chloé, aujourd'hui.
Merci Ezequiel Fernandez, il est 7h10.